France Inter.
Gaspard Auger et Xavier Deronet forment le duo de musique électronique Justice, dont la première apparition sur disque se fit sur un label intitulé Musclo Records, ce qui va parfaitement avec l'électro-disco brutal et hypnotique qu'ils font surgir des ténèbres depuis leur début. La pochette du premier album studio du tandem arborait ce qui deviendra l'un des symboles phares de leur imagerie, une croix. Les deux musiciens l'appelaient le premier album jusqu'à ce qu'ils découvrent que Wikipédia l'avait surnommé Cross. Après Audio, Vidéo, Disco et Woman, qui arborent aussi une croix sur leur pochette, les auteurs des tubes Dance et Stress sortent sur le label Headbanger un quatrième album studio intitulé Hyper Drama. Sur cet opus, des collaborations d'artistes comme l'Australien Kevin Parker de Tame Impala, l'Américain Miguel ou encore les jeunes Anglais de The Flint. Le disque mêle électro furieuse et disco-funk élégante, faisant passer en quelques secondes d'une crypte de vampires métalleux survoltés à une voiture décapotable traversant au ralenti l'atmosphère sensuelle de la nuit californienne. Les 13 morceaux seront sur les plateformes et dans les bacs, comme nous le disions au siècle précédent, le 26 avril prochain. Bonsoir et bienvenue dans Grand Canal.
France Inter, Grand Canal, Eva Bester.
Xavier Deronet, Gaspard Auger, bonsoir.
Bonsoir Eva.
À quoi avez-vous le plus pensé aujourd'hui ?
Est-ce qu'on allait bien pouvoir
Xavier
répondre
Deronet.
À cette question ?
C'est vrai ?
Ouais.
Alors, bah, on
parce,
commence
parce
par vous.
Parce qu'on savait que ça allait commencer par ça, bah, c'est à ça. Et à où partir en vacances ? Où est-ce qu'il serait raisonnable de partir en vacances cet été ?
Et vous avez trouvé ?
On pense, en Grèce peut-être.
Ah oui. Gaspard Auger ?
Pareil, j'ai beaucoup réfléchi à cette question d'introduction sans trouver de réponse.
Très bonne réponse. Dans une interview pour Les Inrocks en 2018, vous revenez tous les deux sur votre scolarité. Vous dites que vous ne faisiez pas partie des élèves populaires sans être des souffres-douleurs pour autant. Gaspard Auger, vous soulevez la chance que ce fut pour vous de développer un univers intime, et Xavier Deronet aussi, en vous éloignant de la paresse. Aujourd'hui, vous êtes très populaire. Est-ce qu'il y a toujours autant de désir ?
On considère que cette partie-là de nos existences est gagnée. Et je n'ai de cesse de l'expliquer à ma fille, qui est dans, c'est un peu dans ces problématiques de collège, de est-ce qu'il faut être cool, est-ce qu'il faut avoir les baskets à la mode. Et je lui dis, regarde, prends ton père comme exemple, j'étais un naze au collège, et regarde comme la vie est belle maintenant. Et en tout cas, ce passage-là, en fait, du collège et du lycée, où on se construit une identité, et où on se construit par rapport à... soit la taille de son scooter ou la marque de ses habits, ou alors à des choses qui sont plus personnelles comme ce qu'on lit, ce qu'on voit, ce qu'on écoute. Et j'ai l'impression que c'est difficile de faire les deux quand on a 13-14 ans. Et on a eu la chance, nous, de se construire par les livres, les BD, la musique et toutes ces choses. Et c'est hyper important. Et puis après, passer l'âge de 20 ans, ce problème est résolu. Et on peut aller de l'avant et on est déjà plus ou moins informé.
Gaspard Auger, vous confirmez ?
C'est quelque chose qui nous a, je pense, qui nous a aussi rapprochés dans le sens où on a vraiment pu cultiver notre petit monde intérieur à l'époque où d'autres garçons avaient déjà des expériences de type romantique. Et pour nous, ça a toujours été important de se cultiver, mais sans aucune prétention, mais en tout cas de regarder ce qui se passe en BD, en musique. C'est pour nous, c'est vraiment un petit jardin secret qu'on continue à cultiver.
We'll be right back. Generator de Justice.
Grand Canal. Eva Bester sur France Inter.
Gaspard Auger et Xavier Deronay, nous sommes ensemble pour évoquer votre nouvel album Hyperdrama. Pourquoi Hyperdrama ?
On a toujours dit notre musique, en tout cas qu'on essaie de faire la musique la plus dramatique et la plus outrée possible, et d'aller vraiment dans l'exagération de toutes les émotions, c'est-à-dire que quand c'est euphorique, ça l'est de manière extrême, si c'est triste, c'est très triste, très naïve aussi, notre musique est vraiment naïve ou vraiment agressive et brutale. Et pour nous, l'hyperdrame, enfin voilà, c'est le troisième stade après le drame, le mélodrame. Et voilà, on a le niveau suivant. Et en plus, je sais pas si c'est le cas en français, mais chez les anglo-saxons, le préfixe hyper a une connotation un peu computationnelle. En fait, j'arrête pas de dire ce mot, je sais même pas si ça existe, mais en tout cas, généré par ordinateur. Digital. Et on a découvert ensuite que c'était une forme de drame qui existe. Et alors, j'ai aucune idée de ce que ça signifie, mais apparemment, c'est des drames générés par hypertexte, ce qui rend possible l'absence d'unité de lieu et d'espace. Et on peut avoir une scène qui a lieu dans cinq endroits différents en même temps. Et l'air de rien, ça rejoint un peu l'idée de ce disque. Pour presque tous les morceaux, nous, on a enregistré une version où tout est électronique. Une version dans laquelle tout est organique et on passe de l'un à l'autre comme si on avait deux morceaux qui couraient en parallèle et qu'on pouvait sauter l'un à l'autre comme ça, de manière magique.
Gaspard Auger, vous êtes plutôt hyper ou plutôt drama ?
Un peu des deux, ça dépend des jours, ça dépend des heures.
Et là, vous êtes quoi, là, ce soir ?
Plutôt infra, là, pour l'instant.
Infra. Et vous, Xavier Deronay ?
Hyper, pas très drama, et en fait, notre musique doit ressembler à tout. Sauf à nous et à nos vies, en fait, parce que si on faisait une musique qui nous ressemblait et qui ressemblait à nos vies ou même au monde, ça serait pas du tout aussi fun et aussi exacerbé.
Qui fait quoi dans votre duo ? Est-ce qu'il y en a un qui a des tâches attitrées ou vous partagez tout de la même façon ?
On partage tout de la même façon. En fait, on travaille surtout par réaction, mais par rebondissement. C'est-à-dire que je pense que 99% du temps passé sur un album, on le passe ensemble, à juste rebondir sur les idées de l'un et de l'autre. Finalement, faire de la musique électronique, c'est surtout beaucoup de discussions. Il y a très peu d'exécutions et de travail technique. Ça vient surtout à la fin. Et la grosse partie du boulot, c'est de poser une idée, puis de rebondir. Et donc, tout est un peu mélangé.
Est-ce que vous pouvez expliquer aux auditeurs, vous avez déjà dû le faire des centaines de fois, mais ce qui vous plaît tant dans le symbole de la croix que vous avez totalement dénué d'aspect religieux ?
C'est une longue histoire. En fait, c'est notre ami et graphiste Somi, Bertrand Delangeron, qui avait fait une pochette donc avec le mot « justice » écrit, et il avait pris le T central, il l'avait dessiné comme une croix. Et en fait, on s'est longtemps posé la question de trouver un symbole qui nous permette, un peu à la Pink Floyd, Dark Side of the Moon, de pas écrire le nom du groupe sur le disque. Et après quelques tergiversations, on s'est dit, c'est le symbole, on l'a, c'est le T central qui est devenu une croix.
Mais on était assez séduits par l'idée de... En fait, la croix, je crois que c'est le deuxième logo le plus identifié après le M de McDonald's.
Dans la pop culture.
Ouais, voilà. Si on s'était appelé Just Smith, on aurait pu tenter un petit M de McDonald's. Mais la croix marchait bien et on s'est dit, est-ce qu'on peut truster un logo comme ça et le sortir complètement ? Pas complètement, parce que pour certaines personnes, ça résonnera toujours comme la croix du cri. Mais,
du cri ?
Il y a des gens qui disent le cri.
Est-ce que vous dites un anana ?
Non, mais je dis bar.
Oui, mais vous dites pas le but.
Non mais un ananas, je me pose toujours la question quand même. Et finalement, c'est presque possible. Je pense que la plupart des gens qui écoutent Justice ne le perçoivent pas du tout comme un symbole religieux, mais comme notre logo, donc c'est assez beau.
Alors je vais dire Justice, parce que depuis tout à l'heure, je dis de façon absolument idiote Justice, mais si justice en personne dit justice, je dis justice. On vient d'écouter votre morceau Generator, qui paraît déjà classique dans votre répertoire et qui doit parler directement aux fans de la première heure. Est-ce que vous pouvez dire aux auditeurs ce que c'est le gabber, puisque cet album est censé être un opéra disco gabber?
Alors, je suis même pas sûr qu'on ait la définition qui corresponde vraiment à la réalité. En tout cas, pour nous, le gabber.
Alors, une fausse définition de gabber.
Bah pour nous, le gabber, c'est de la musique, une musique électronique de qui s'écoute dans des hangars à Rotterdam entre 91 et 94. C'est la musique de Thunderdome, en fait, tout simplement, de ces disques avec des pochettes sur lesquelles il y a des clowns maléfiques et des chauves-souris avec les yeux rouges. Donc, musique très rapide, très brutale. Et c'est vrai que Generator, mais aussi une grosse partie de cet album, c'est du disco fait avec des sons de gabber ou de hardcore. Je ne sais pas quelle est exactement la bonne terminologie.
Dans Generator, entre autres, il y a de la violence, il y a de la puissance, il y a des ténèbres et il y a de la pulsion vitale. Et on entend au loin comme une voix de créature des abysses, des râles d'un gouffre obscur. Je sais que vous aimez les ténèbres tous les deux et vous avez d'ailleurs utilisé le sample d'un morceau, accessoirement l'un de mes préférés, de la bande originale du film d'épouvante Ténèbres de Dario Argento, composé par le groupe de rock italien Goblin. Gaspard Auger, Xavier Deronet, on peut entendre votre hommage à Goblin sur les titres Fantôme et Fantôme Partout sur votre premier album. Mais ce titre, en fait, on se dit que vous auriez pu le composer.
On aurait pu, mais alors l'histoire de ce sample, c'est grâce à notre ami et confrère Kavinsky, qui a joué ce morceau dans une soirée à un moment, et on est venu le voir tous les deux en lui disant « Mais attends, c'est quoi ce truc, c'est incroyable ?» pour finir par le sampler, ouais.
Je parle de votre goût des ténèbres, car on retrouve aussi des atmosphères à la John Carpenter sur certains de vos morceaux, par exemple sur le nouvel album, dans Explorer, en featuring avec le néo-zélandais Conan Mocassin. Et alors, pour des questions de droit, on peut en écouter 30 secondes maximum. Explorer, starring Conan Mocassin, avec lequel il semble que vous ayez trouvé chaussures à votre pied. Il y a quelque chose de quasi métaphysique, voire cosmique sur ce morceau.
Dans quel sens?
Le premier.
C'est vrai que nous, on l'a fait et on l'a entendu comme un... Enfin, pour nous, c'est l'équivalent de se promener dans une espèce de paysage où tout est... Un peu comme quand on arrive en, je sais pas où, en Thaïlande ou au Japon en plein été, que la porte de l'avion s'ouvre et que d'un seul coup, il fait 45 degrés avec 105% d'humidité, et qu'on est un peu écrasé par cette sensation. Et le plan de ce morceau a toujours été de faire quelques minutes de cet instrumental qui est un peu oppressant, et après d'avoir une apparition à la fin, qui est tout aussi oppressante, mais d'une manière différente, par Conan, qui parle et qui chante avec toute la bizarrerie, j'ai envie de dire, de sa voix, et qui nous parle d'une espèce de mirage un peu sous LSD ou comme un rêve un peu fiévreux.
Pensez-vous qu'on ne considère pas assez l'aspect métaphysique de la musique électronique et qu'on se concentre peut-être trop sur son aspect physique, corporel? On le ramène toujours au corps.
Mais parce que c'est presque que ça. Est-ce qu'on a le droit de parler de drogue dans...
Oui, bien sûr, si vous dites que c'est mieux de ne pas en prendre.
Oui, c'est mal.
C'est très mal.
C'est mal, mais...
Dit-il drogué.
Une fois, j'ai un ami qui a compris l'utilité de la techno en étant drogué, après avoir pris des champignons, et qui, en fait, il avait pris des champignons et s'est dit, tiens, si j'écoutais de la musique, qui a écouté de la chanson, enfin, une chanson qu'il écoute toujours, parce que c'est sa musique de cœur, pleine d'harmonie, de rebondissements, et qui a trouvé cette chanson insupportable, alors que c'est par ailleurs une de ses chansons préférées, et qui s'est dit mais c'est pas du tout ce que j'ai envie d'écouter. Il y a beaucoup trop d'harmonie, trop de changements, trop d'instruments. Je voudrais quelque chose qui soit beaucoup plus linéaire, sans harmonie, qui sonne bien, qui me berce, qui me caresse, qui a beaucoup de basses. Et qui s'est dit mais bon sang, mais c'est bien sûr, c'est de la techno que j'ai envie d'écouter pour son aspect purement physique. Et il ne faut pas sous-estimer l'aspect physique de la musique électronique, même si nous, finalement, pour nous, l'électronique, c'est qu'un moyen plus qu'une forme. On fait de la musique électronique puisqu'elle est générée par des machines et des ordinateurs, mais elle n'a d'électronique que le processus.
Je ne sais pas dans quelle mesure vous empruntez au genre horrifique que je sais que vous affectionnez. Par exemple, sur le morceau Explorer, il y a quelque chose qu'on trouve souvent dans les films d'horreur et que vous faites d'une façon détournée, c'est des pauses musicales à des moments parfaitement inattendus et ça perturbe l'oreille.
Bah ça, c'était aussi une volonté un peu de déranger un peu l'auditeur, en tout cas dans un premier temps, enfin en tout cas de le tenir en éveil. Parce que la structure du morceau, elle est assez répétitive et c'est des éléments qui se rajoutent. Mais il y a toujours ce petit déséquilibre qu'on aime bien faire de micro-coupures à des endroits inattendus.
Vous disiez en 2016 aux Un Rock que vous aviez fait au début les choses les plus agressives possibles. Faire de la musique désagréable à écouter, c'était presque un postulat. Et vous parliez même de prise d'otage. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous prendre en otage vous-même avec des morceaux ?
Ah bah oui, quand on bosse 3 ans et demi sur un album, ce qui est le cas pour Hyperdrama, c'est une prise d'otage de 3 ans et demi. Et il y a des morceaux qui sont particulièrement compliqués à finaliser, et ça peut durer des mois. On a l'impression qu'on s'en sortira jamais. On finit par avoir un petit syndrome de Stockholm, et ça devient nos favoris. Mais c'est une prise d'otage de très très longue durée, ouais.
Au sujet de votre album audio-vidéo-disco, vous disiez que vous vouliez aller à l'encontre de l'idée associée à la musique électronique perçue comme nocturne et urbaine en faisant un album rural et diurne. Moi, ça m'a fait penser au film d'horreur Midsommar d'Ari Aster, qui se passe justement à l'inverse de tous les autres films d'horreur en plein soleil. Est-ce que vous êtes revenu à la nuit avec Hyperdrama ?
On est plutôt entre chien et loup, ouais, je dirais. C'est un disque qui est peut-être moins monomaniaque. Enfin, il est assez monomaniaque aussi, mais disons qu'il, dans sa variété, c'est quand même des passages de l'ombre à la lumière de manière assez, assez constante. Après, c'est un disque, j'espère que c'est un disque de voiture. En général, c'est un compliment qu'on aime bien quand on écoute notre musique. Parce que sans utiliser le terme de voyage, mais il y a vraiment une espèce de théâtralisation avec beaucoup de sorties de route et beaucoup d'ambiances différentes.
Franchement.
Bonnie Banane, le morceau Franchement.
Grand Canal. Eva Bester. Sur France Inter.
Xavier de Ronay et Gaspard Auger du groupe Justice sont en studio pour évoquer leur nouvel album Hyperdrama. On entend votre morceau One Night, All Night avec l'Australien Kevin Parker du groupe Tame Impala. Sur votre album figurent Conan Mocassin, Kevin Parker, Miguel. C'est la première fois, j'ai l'impression, que vous avez recours à des artistes aussi connus. Je voulais savoir si ça vous faisait travailler différemment. Est-ce que, en termes d'adaptation, vous dites vos envies et ils s'adaptent, ou c'est l'inverse, ou il y a des efforts de part et d'autre ?
Non, en fait, comme toutes les collaborations précédentes, on s'adresse à eux parce qu'on aime leur musique et on sent qu'il y a une possibilité de faire quelque chose qui est un peu plus que la somme des parties. Là, il s'avère qu'ils sont connus, mais ça change absolument rien au processus. Tout le monde fait un effort de faire des pas les uns vers les autres en espérant qu'il se passe quelque chose un peu magique. Et personne s'adapte. C'est exactement la même chose qu'une bonne relation amicale ou amoureuse, il faut pas trop s'adapter, il faut juste trouver les endroits où aller pour qu'il se passe quelque chose d'un peu fantastique.
Oui, pas trop s'adapter, sinon on supprime des éléments de soi.
Bien sûr.
Le clip One Night, All Night est signé Anton Tamy, qui travaille aussi pour The Weeknd, et dedans on plonge dans votre fameuse croix, parmi des choses très organiques, et on peut penser au squelette d'acier du plasticien, à des choses qui évoquent Hans Rudy Giger, qui a fait la créature et les décors d'Alien de Ridley Scott. Est-ce que c'est vous qui avez choisi cette iconographie ?
Alors on est très fan de Giger ou Giger, je ne sais pas comment
moi
on dit.
Est-ce que vous dites Richard Gere ou Richard Gere ?
Ah, peut-être.
Maintenant, je dis Gere, ouais. Comme un naze. Bon, on devrait continuer de dire Richard Gere.
Non, mais c'est toujours un artiste qu'on a un peu dans un coin de nos têtes parce qu'il a traumatisé beaucoup de gens de notre génération entre Alien et le Dune de Jodorowsky non achevé. Mais pour nous, la référence principale, c'était ce qui s'appelait The Transparent Man. C'était des petits modèles anatomiques transparents dans lesquels on pouvait voir tous les organes. Et donc c'était une espèce de sublimation de ce souvenir et qui correspondait assez bien à l'esprit du disque où il y a des éléments organiques et peut-être même un peu repoussants au premier abord, mais qui sont encastrés dans une croix de verre très lisse et très brillante.
Mais je sais plus quel est le nom de ce fétichisme, mais les gens qui sont fascinés ou même émoustillés par les organes parce que c'est brillant, parce que c'est un peu mou et ça.
Jeffrey Dahmer.
Ouais, et c'est vrai que c'est fascinant en fait de regarder même des carcasses ou le boucher travailler ou la. Et voilà, de confronter ça à la propreté presque clinique de la croix qui est transparente, c'est assez intéressant. Et ça produit un résultat visuel qui nous attirait.
L'album paraît très cinématographique. Vos morceaux ont été utilisés au cinéma. Par exemple, Genesis dans The Square de Ruben Östlund. Gaspard Auger, vous avez composé pour Quentin Dupieux. Pensez-vous vos albums comme des films, notamment en termes de narration ?
Non, pas vraiment. On est obligé d'y penser parce que la forme narrative du film, elle fonctionne de manière divertissante et pour nous c'est ça qu'on veut essayer de rapprocher, de retrouver dans nos disques. Mais après, on pense pas du tout nos albums comme une musique de film, par exemple, qui n'existerait pas ou quoi que ce soit. C'est vraiment plus ce système-là pour schématiser, mais très simple. On a les plans qui permettent d'établir ce que va être l'album, donc qui est le début du film ou le début d'un album, veut dire voilà où nous sommes, voilà qui sont les protagonistes. Et après, on fait une petite construction vers le milieu. Les choses tournent un peu au vinaigre. Vers les deux tiers, le sidekick du héros meurt.
Vous faites ça quand même, alors, comme
oui,
en synopsis
sûr.
De film.
Puis après, il y a un petit plot twist, je ne sais pas comment, un retournement de situation. Mais à la fin, tout finit bien. Et on revient à la maison, tout le monde est content. C'est très schématique, mais on est obligé de penser à ça quand on structure un album. Ouais.
Gaspard Auger, il paraît que vous écoutez principalement des bandes originales de films et des disques d'illustrations sonores. C'est toujours le cas ?
Alors, il paraît, mais c'était assez vrai. Quand j'ai fait mon album solo là, qui s'appelait Escapade, j'étais un peu obsédé par ça. Et c'est ce qui m'a permis d'arriver avec d'autres envies sur Hyperdrama. Et d'arrêter complètement d'écouter de la musique, d'ailleurs. Voilà.
Vous en réécoutez ?
Quand on est sur un album, en fait, je me bouche un peu les oreilles.
Pour j'essaie pas être contaminé.
Voilà, ouais.
C'est votre morceau After Image qu'on entend avec la néerlandaise Rimon. C'est un morceau qui invite au mouvement, à la course. On ne peut pas écouter ça en restant immobile. Et votre album est très dansant. On l'imagine passer en boîte de nuit, comme le titre Mannequin Love avec The Flint. Gaspard Auger, vous dites que votre credo, ça a toujours été dans Justice, faire pleurer en dansant.
Ça n'a pas changé dans le sens où on est toujours un peu tiraillé entre le... l'envie de faire bouger de manière et émotionnelle et physique aussi. Donc on oscille toujours un peu entre la mélancolie et la violence. Et c'est toujours le cas, en fait. Peut-être encore plus dans ce disque en termes de juxtaposition des deux extrêmes.
Il y a mélancolie, violence, mais il y a aussi une pulsion très vitale, une énergie.
Oui, bah plus que de la violence, je dirais aussi de l'euphorie et un peu la transpiration, mais les deux vont toujours ensemble pour dans tout ce qu'on aime ou dans la plupart des choses qu'on aime, que ce soit un plat ou un film ou
un plat par exemple, ce serait quoi?
Mais on a parlé il y a pas très longtemps de ce dessert qu'on peut manger au Servant à Paris dans le 11e, qui c'est très étonnant, c'est un sorbet à la fraise au piment. Et en fait, donc ça commence et on n'a que la rondeur et la douceur de la fraise. Il n'y a absolument pas de piment pendant les 3-4 premières secondes. Puis d'un seul coup, il arrive et de la manière la plus précise. C'est-à-dire qu'on a vraiment le piment comme on ne l'a jamais ressenti avant. Et il ne pourrait pas être comme ça s'il n'y avait pas la fraise avant.
Et c'est vous ce sorbet.
On aimerait bien.
Saturnine, c'est un morceau qui figure sur le nouvel album. Il a été enregistré à Hollywood avec le chanteur de R&B Miguel. Et est-ce que les endroits où sont enregistrés les albums modifient les morceaux ?
Mais on s'est souvent posé la question parce que notre premier album a été enregistré dans une crypte,
oui,
à côté de la rue Montmartre. Et on a souvent raconté cette histoire, mais on était dans un troisième sous-sol, dans une toute petite salle dans laquelle il n'y avait pas d'aération. Et on finissait souvent nos journées en s'endormant, mais de manière inconsciente. On s'évanouissait presque, parce que nos cerveaux n'étaient pas assez oxygénés. Mais c'est assez réel. Hein. Et cet album sonne exactement comme notre condition à l'époque. Mais on n'a pas assez d'expérience pour vraiment savoir à quel point le lieu teinte la musique. Parce que finalement, on n'a fait que 4 albums. Là, ça a été enregistré à Los Angeles, mais ça aurait pu être enregistré n'importe où, c'était par commodité. Mais j'ai envie de croire, oui, que l'environnement modifie un peu le résultat.
On évoquait la danse, il y a un morceau qui va encore plus loin, il évoque, bon, c'est subjectif, mais une victoire de champion ou une conquête, c'est incognito. We'll be right back. Le morceau Incognito. D'ailleurs, comment est-ce que vous trouvez vos titres Incognito, Saturnine, Mannequin Love?
Ça peut venir parfois des paroles. Mannequin Love, c'est à cause des paroles. Mais Incognito, c'est ou Saturnine, c'est des mots qui nous paraissent
qui sont résonner
avec
qui
le morceau.
Fonctionnent avec le morceau.
Mais de manière purement phonétique, en fait, Saturnin ou Saturnine n'a a priori aucun rapport. On aurait pu changer le nom une fois que les paroles ont été écrites. Et finalement, on se dit non, ça lui va mieux de s'appeler Saturnin, un peu comme quand on décide du prénom d'un enfant avant qu'il naisse. On dit, ah voilà, il s'appellera Gontran, et puis il naît, on se dit, mais il n'a pas du tout une tête de Gontran. Et Saturnine, on s'est rendu compte que ça voulait dire la même chose qu'en français, plus ou moins, c'est le saturnisme, en fait. Et ça nous allait assez bien avec cette idée de. Qui est dans la chanson.
Cette idée d'empoisonnement.
Ouais, d'empoisonnement.
Volontaire.
Pour nous, c'est un peu un type drogué qui rampe dans les couloirs d'un hôtel et qui décrit ce qui se passe autour de lui et ce qu'il voit. Donc ça fonctionnait finalement.
Moi, le titre Incognito, ça m'a fait penser un peu à ce que vous cultivez malgré votre succès planétaire. Il n'y a pas de chanteur dans le groupe, donc personne n'est mis en avant. Vous n'apparaissez pas sur vos pochettes et vous avez dit plusieurs fois dans des interviews que c'était assez confortable comme position, que vos morceaux étaient plus connus que vous.
Oui.
Xavier Doronet.
Dans un monde idéal, on pourrait vivre et faire nos choses sans avoir à se montrer du tout. Malheureusement, cette idée géniale a été complètement trustée par nos amis de Daft Punk. Donc c'était impossible de faire exactement la même chose. On a donc pris la décision de se montrer et le mieux possible si c'était nécessaire. Et par contre, de pas du tout, de complètement disparaître s'il n'est pas absolument vital qu'on soit là.
Je vous demandais si c'était avec Thundercat celui-là, et le oui était choral. On entend votre morceau The End, qui moi m'a évoqué un jeu vidéo ultra violent. Votre musique a beaucoup été utilisée dans les jeux vidéo. Est-ce que vous jouez, Gaspard Auger?
Moi non, mais Xavier a un petit,
ouais.
Petit passif de gamer.
Ouais, j'ai un. Et je pense que ça, c'est mon ascendance asiatique. Et le démon en fait du gamble et du jeu que j'ai en moi malgré tout. Et c'est vrai que j'ai des petites ficelles dans mon cerveau qui sont activées par certains jeux dont avec une composante de semi-hasard et de manipulation du hasard. Et il est vrai que je me laisse facilement absorber dans ces abysses. Ouais.
Je savais qu'il y avait des abysses derrière tout ça. Je vous ai demandé des choix musicaux. Le premier est assez surprenant. C'est le générique de Punky Brewster, la série. C'est Gary Portnoy, Every Time I Turn Around. Avant qu'on écoute un petit bout, pourquoi?
Mais pour nous, c'est vraiment un chef-d'œuvre de composition. C'est comment faire entrer autant d'émotions dans 1 minute 30, ou je sais pas, je pense qu'il y en a 1 minute 30. Et c'est aussi une série de notre enfance. Enfin, on a grandi avec ça, et ça a un peu modelé nos goûts en tout. C'est-à-dire que la petite fille est sublime. On a envie d'être, pas plus maintenant puisque maintenant nous sommes vieux, mais à l'époque on avait envie et d'être amis et d'être amoureux. Et après il y a encore ce truc-là dont on parlait avant. L'histoire est sinistre. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est une petite fille qui est abandonnée par son père d'abord, puis abandonnée par sa mère dans un supermarché, et elle est seule avec son chien. Et elle rencontre ce type qui est dans un immeuble qui va la recueillir, qui lui-même est veuf, et je crois qu'il perd sa femme au bout d'un ou deux ans de mariage. Enfin, tout est horrible. Et pourtant, on a ce bout de musique qui est pareil, moi qui mets en des états d'euphorie pas possible, alors que ça parle de quelque chose de très sombre et de dramatique. You can't be sure.
Xavier Deronet, vous venez de me révéler qu'il y avait un cri de chien à la fin de ce morceau, ce qui m'intéresse hautement.
Bah ici, il dure 1 minute 30, si on a la fin, on l'aura.
Je suis pas sûre.
Ah mince, bon, à la fin ça fait...
On va la voir ou pas, je demande à Lola en cabine, oui.
Ah, il est là. Attention.
Ah oui, très juste. Et voici votre autre choix. Gaspard Auger, qu'est-ce qu'on entend ?
Alors, on entend un morceau de Death From Above 1979 qui s'appelle Turn It Out. Et c'est un duo assez bruyant et on a toujours été très fan de ce duo qui fait énormément de bruit. C'est un mec à la basse et un autre à batterie et chant. Et de la même façon qu'on adorait les White Stripes aussi, il y a cette espèce de capacité à faire autant de raffus en étant que deux. Et ils ont une formule très brutale et pour les avoir vus en concert, c'est vraiment fascinant. Ouais.
Je vous ai demandé une découverte pour les auditeurs et vous avez choisi un album de Pierre Lapolice, un album de bande dessinée Les Praticiens de l'Infernal, le tome 2 sorti en 2017, Miracle Nuisible et Malveillance Céleste. Qui veut en parler ?
Alors, c'est assez drôle parce que Pierre Lapolice a toujours été vraiment le truc qui nous fait le plus rire depuis qu'on se connaît, parce qu'il y a une espèce de précision dans l'absurde et dans le choix des mots. Qui est vraiment inégalé. Et pour la petite histoire, quand on a demandé à Conan Mocassin de chanter sur Explorer, en fait, ça a été un peu long à mettre en place parce qu'il ne voyait pas trop où on voulait en venir. Et donc, on lui a envoyé des images et de Mobius, donc le plus grand artiste de bande dessinée que la Terre ait connu, enfin en ce qui me concerne, et également des images de Pierre Lapolice, donc qui sont beaucoup plus absurdes, et quelque part ça l'a mis en condition et il a compris quel était un peu le ton de son intervention, qui est cette espèce de mirage dans le désert où on imagine un peu des choses qui n'existent pas.
Précisément, l'image qu'on lui a envoyée, c'est un des deux frères, un des héros, donc un des frères Thémistèque, qui s'endort dans son lit dans une position qui n'existe pas.
Parce que beaucoup de choses n'existent pas chez Pierre Lapolice.
Ouais. Puis il découvre qu'il y a un escalier dans son lit qui mène vers une porte, et donc il se dirige vers cette porte, il se retrouve en Ouganda, et c'est là qu'il découvre qu'il a le pouvoir d'être en Ouganda, c'est son super pouvoir. Voilà.
Xavier Deronet et Gaspard Auger, je crois que c'est la première fois que vous faites une tournée en même temps que la sortie d'un album.
C'est vrai. Non, est-ce que non ?
D'habitude, c'est longtemps après.
Ouais, non. Alors notre premier album, on avait réussi ce tour de force, puisque c'est un tour de force d'arriver à ce que tout soit prêt en même temps. Bon, là, on n'est pas complètement prêt, mais on essaye. Et c'est vrai que sur les deux précédents, on avait un peu raté cette fenêtre. Et là, comme le disque techniquement aurait pu sortir l'année dernière, mais on avait envie encore de fignoler un peu quelques détails, donc on a pris un an de plus. Et voilà, tout est bien qui finit bien. On arrive à tout faire en même temps là.
Est-il vrai que vous n'aimez pas trop les concerts comme spectateur ?
Oui, c'est
alors,
vrai.
Alors c'est vrai qu'on
à l'unisson.
On en a beaucoup fait dans notre prime jeunesse, mais c'est vrai qu'avec le temps et à force d'en voir, on est devenu un peu impatient, mais on y va quand même régulièrement.
Toi, t'en as beaucoup fait. Moi, avant de faire de la musique, j'étais allé une seule fois en festival et j'avais vu deux concerts.
Ah oui.
En Ouganda.
Ouais. En Ouganda, ouais.
Est-ce que pour préparer vos concerts, ils sont toujours très impressionnants. En 2007-2008, c'était deux murs d'enceinte Marshall d'où jaillissaient des faisceaux lumineux. En 2017, c'était un jeu de miroirs, vidéo et lumière. J'ai lu une interview où vous disiez que vous regardiez tout ce qui avait été fait et inventé depuis la dernière fois que vous étiez sur scène. C'est toujours le cas ?
Oui, c'est vrai qu'on fait ça. Parfois, on va dans des conventions d'éclairagistes. C'est pas une blague, hein. C'est des grands halls où tout le monde présente son matériel en disant voilà les nouveaux projecteurs. Bon, on le fait pas toutes les trois semaines, hein, mais on se tient au courant parce qu'une énorme. En fait, la musique électronique et ce genre de spectacle, de concert en tout cas, c'est encore embryonnaire en fait. Et c'est dépendant de la technologie. Donc, on est obligé de savoir ce qui existe un peu, puisqu'on sera dépendant de ça à 50% ou plus.
Donc là, il y a des nouveautés excitantes en termes d'éclairage.
Oui, alors laissez-moi vous parler de ce projecteur 25 000 watts.
Ah oui, parlez-nous-en. Allez-y, Xavier de Ronet.
Non, oui, il y a plein de choses à faire, mais surtout, en fait, comme dans la plupart des disciplines, pour donner l'impression d'un résultat simple, et finalement, on essaie toujours de donner l'impression qu'il y a le moins de technologie possible sur nos concerts, il faut en passer par des choses qui sont à la pointe de la technologie et qui sont d'impossibles usines à gaz.
Eh bien, sachez, chers auditeurs, que le groupe préféré des Justices, c'est les Beach Boys. Et là, on entend God Only Knows. C'est vrai, c'est toujours votre groupe préféré, Gaspard Auger?
Ouais. C'est moi, c'est un groupe que je connais pas de manière extensive, mais ça reste un de mes groupes préférés. Ouais.
Et vous avez dit hors antenne que vous aviez failli mettre une ceinture.
Une ceinture Beach Boys que je possède, ouais, que je chéris.
Quand même. Et vous, Xavier de Ronet?
Oui, à jamais, ça reste un des groupes et Brian Wilson, un des personnages les plus impressionnants et fascinants de la musique, parce qu'il y a ce grand écart, comme dans la plupart des musiciens qu'on aime. En tout cas, ce truc d'arriver à faire des hits et de la musique qui parle à tout le monde en faisant les choses les plus étranges, les plus drogués, les plus extraordinaires et les plus ambitieuses aussi possibles. C'est-à-dire qu'il aurait pu servir la soupe des Surfing USA toute sa vie. Et assez vite, il prend un pas de côté et il fait ses morceaux comme ce morceau qui est sublime ou Surf's Up ou que sais-je. Et c'est une qualité qu'on recherche chez tous les artistes, qu'ils soient visuels ou les musiciens.
On arrive au terme de cette émission, alors on vous parle tout le temps de musique, parfois de cinéma, et j'aimerais bien qu'on termine avec vos recommandations de livres pour les auditeurs. N'importe quoi que vous avez envie de recommander.
C'est pas très original, mais là je suis en train de lire La Conjuration des imbéciles.
De Kennedy O'Toole.
C'est vraiment très drôle. Ouais. C'est assez fabuleux, c'est assez Pierre Lapolis quelque part. En tout cas, ces espèces de personnages trop confiant de ses capacités, mais qui a quand même une verve très précise. Ouais, c'est vraiment... J'ai pas fini, mais c'est recommandable.
Xavier de Ronet.
J'hésite entre le dernier roman qui m'a plu, ou alors un livre de chevet qui m'a...
Les deux ?
Dernier roman, c'était La Horde du Contrevent, SF française, super fun.
D'Alain Damasio.
Exactement. Et sinon, il y a ce livre qu'on cite souvent, mais parce que et je crois qu'on en avait parlé ici même à la radio, donc pas dans cette émission, bien sûr, qui est La Laideur se vend mal de Raymond Loewy, ou Loewy, je sais pas comment on dit, je dirais Loewy, qui est en gros le type qui a inventé la profession de designer industriel. Il fait partie des gens avec lesquels, en tout cas, nous, on se sent systématiquement d'accord. Il y a des gens qui parlent comme ça et tout ce qu'ils disent apparaît être d'une vérité absolue. Et voilà, et c'est ça. Et en plus, c'est très drôle. Et moi, je l'ai lu en français, alors que je pense qu'il est traduit en français, qu'il a été écrit en anglais d'abord. Mais la traduction française est elle est hilarante et on apprend plein de choses. Et voilà.
Merci beaucoup, Xavier de Ronet et Gaspard Auger.
Merci, Eva.
Votre album Hyper Drama sort dans quelques jours sur les labels Headbanger Records, Because Music. Vous serez en tournée dans tous les festivals, les Nuits de Fourvière, Wheel of Green, Beauregard, Main Square, les Déferlantes, Musilac, le Cabaret Vert, avant votre date parisienne à l'Accor Arena le 17 décembre 2024. Et on mettra toutes les dates précises évidemment sur le site de l'émission. Émission qui a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas et Joseph Haskell, à la programmation musicale Juliette L'Orphelin, la technique Jérôme Ragano.